Salut troupe Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes de la pire carte qu'on a vue de l'histoire du UFC, mais qu'on va quand même l'écouter religieusement parce que Charles Jourdain se bat dessus. Non, c'est ça, carte de merde, pour vrai, on dit souvent ça là, ces temps-ci, mais celle-là, c'est de loin une des pires que j'ai vues là, dans l'histoire. Non seulement à cause du main event, qui est vraiment très, très, très ordinaire, mais aussi à cause des prelims. Man, il y a un moment donné sur la carte où c'est comme tu tombes juste dans des match-ups qui, ben sincèrement, n'ont aucun intérêt. Là. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Fait qu'on va y aller tout de suite, je veux pas trop perdre de temps, je vais vous parler plus de Charles que d'autres choses sur ce preview-là. Fait qu'on va y aller avec le main event de la soirée. Chez les 125 livres, on a Cynthia Calvillo qui affronte Jessica Eye. Puis écoute, mon concern là, dans cette fight-là, c'était genre, ben, tu sais, t'es une fille qui a move down de 135 pour devenir une très bonne number one contender à 125 livres. Elle affronte Cynthia Calvillo qui va move up de 115. Puis je me disais, ah, elle s'est jamais vraiment battue à 125 livres, du moins, pas à ce niveau-là, tu sais. Fait que je me demandais, qu'est-ce qu'elle a en aide? Ça allait avoir l'air de quoi ce match-up-là? Puis là, j'ai regardé la fiche à Cynthia Calvillo que j'ai ici, là. Puis elle a des victoires contre Courtney Casey, Pollyanna Botello, Joanne Calderwood, Pearl Gonzalez, Montana De La Rosa, ainsi que Jillian Robertson, qui sont toutes des 125 livres. Dans le fond, depuis qu'elle est arrivée dans l'UFC, elle a battu Amanda Cooper, qui est une 115 livres. Puis ses deux autres combats à 115 livres, qui sont contre des filles qui sont encore dans cette division-là, mais c'est sa défaite contre Carla Esparza puis son combat nul contre Marina Rodriguez. Donc, je pense que c'est con à dire, mais avec une victoire contre Jojo Calderwood qui se bat pour la belt là, prochainement, Cynthia Calvillo est déjà peut-être la number one contender dans cette division-là. Qui sait, on va le voir samedi, mais s'il y en a du match-up, j'ai Calvillo. Je vous cacherai pas, j'ai Cynthia Calvillo ici. Je sais pas si elle est favorite, ça me surprendrait, mais elle est très très bonne au sol. C'est, elle a une spécialité là, au sol, là, un peu comme un Mick Dufort ou comme un Mick Eagle, là, quelqu'un que des fois quand il t'amène là, peut juste se téléporter dans ton dos, faire des affaires que tu comprends pas trop comment qu'elle l'a fait, mais elle réussit à les passer puis elle gagne avec ça. Et puis ce qui m'amène à la pique dans ce combat-là, c'est le fait que Jessica Eye, depuis qu'elle a 125 livres, ce qui fait qu'elle gagne ses combats, souvent, avant, là, à 135 livres, elle boxait avec ses adversaires pendant tout le combat. Ça donnait toujours droit à des combats super serrés, puis presque à chaque fois, elle perdait la split decision. Longtemps qu'elle s'est retrouvée avec une fiche, un moment donné, je pense, de comme une victoire, puis cinq défaites dans l'UFC, même si tout le monde s'entendait pour dire qu'elle avait probablement gagné la moitié de ses combats, puis perdu l'autre moitié. Puis elle a réussi à changer ça en arrivant à flyweight, mais c'est en incorporant beaucoup de takedown dans sa game, en changeant le momentum du combat, souvent en boum, en allant chercher un takedown, contrôlant son adversaire au sol. Je ferais pas ça contre Calvillo, je pense que c'est la pire chose qui peut y arriver pas mal que de se retrouver au sol contre Calvillo, même si Calvillo est en dessous, vraiment excessivement dangereuse de partout au sol. Donc, étant donné que le striking de Calvillo s'est beaucoup amélioré, assez amélioré pour qu'elle ait littéralement un draw là, contre Marina Rodriguez, qui est une bien meilleure striker qu'elle, je vais y aller avec Calvillo ici. Je pense que les échanges de boue vont être assez serrés. Aïe, a de la misère à se retenir, à pas grapple. Et puis même si elle essaye pas, je pense que Cynthia va elle-même essayer. Bien que elle ait plus du style à se fier sur ses mains, puis counter-grapple au besoin. Mais garde, je pense que Calvillo gagne ça par soumission au deuxième round, ce combat-là. Ensuite, Carl Roberson affronte Marvin Vettori. Ça devait avoir lieu, ça n'a pas eu lieu. Roberson a genre manqué le poids, là, le combat n'a pas eu lieu. Il s'est retrouvé à l'hôpital, je sais pas trop. Puis là, ils ont fait, ils se battent backstage. Fait que là, c'est un grudge match. Pas tant d'intérêt, pour être honnête avec vous, j'aurais aimé mieux voir Charles dans le co-main event. Je pense que c'est définitivement là, le combat sur la carte. Puis je dis même pas ça parce qu'on est clairement très partisan de Charles. C'est le combat le plus excitant sur la carte. C'est le combat qui va être le action fight qui va donner le meilleur moment de la soirée. Et ce, assurément, selon moi. Fait pour le co-main event, Roberson, Vettori. Roberson est bon, peut-être un meilleur striker que la moyenne. Se débrouille spécialement bien au sol, mais c'est quand lui initie le sol. S'il initie pas le sol puis il veut pas se retrouver au sol, a tendance à mal se débrouiller au sol. Donc, C'est sûr que j'y vais Tory ici, là. Pas trop de questions. Il est très complet. C'est pas un gars qui a du flash dans sa game du tout. Mais il est très complet. Il me fait un peu penser à Cody Stamen là, de la semaine passée. Quelqu'un qui est bon debout, qui est bon dans le clinch, qui est un bon lutteur, capable de contrôler le combo au sol. Donc s'il réussit à mettre la pression sur Carl Roberson, si c'est lui qui initie les échanges de grappling, va absolument dominer là, à cet effet-là. Puis je vois mal Roberson pouvoir faire grand-chose. Donc j'ai Marvin Vettori par décision ici. Ça nous mène au combat qu'on a passé à ça d'avoir le deuxième combat le plus attendu de la soirée, mais malheureusement, ça ne le fera pas. C'est Merab Dvalishvili qui affronte Gustavo Lopez. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le fond, Gustavo Lopez, ça a été annoncé, Merab devait affronter Ray Borg, ça a été annoncé que Ray Borg ne ferait pas partie de cet événement-là. Je pense qu'il y a des problèmes familiaux encore là, avec son enfant malade ou de quoi. Fait qu'il a fallu qu'il retourne à la maison. Lui aussi, on trouvait Gustavo Lopez, champion combatté Américas, qui est un très bon combattant. Là, une fiche de 11-4, combattant, tu sais, complet, qui est capable de tout bien faire, qui d'après moi, de niveau UFC, là, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est ça, ils ont trouvé Gustavo Lopez, mais Campbell McLaren de Combatté Américas est sorti pour dire « Yo, c'est parce que t'es encore sous contrat avec nous, puis c'est pas trop fair de la manière que t'as fait ça », mais Daniel Rubenstein, le manager de Gustavo, a réussi à lui obtenir son release de la promotion. Ce qui est plate pour nous, c'est que si le release n'était pas obtenu de la part de Combatté Américas, ben Gustavo Lopez n'allait pas pouvoir se battre, et puis c'était Louis Jourdain qui allait prendre sa place pour affronter Merab Dvalishvili. Ça ne sera que partie remise pour Louis, là, malheureusement. Ça aurait été le fun de le voir. Peut-être pas contre Merab, mais ça aurait été le fun de le voir. Comme Charles, là, arriver sur short notice, faire sa place dans l'UFC. Puis ses prochains combats auraient probablement été plus intéressants que celui-là, même pour Gustavo Lopez. Je pense pas que ça va être une très bonne soirée. Merab Dvalishvili est excessivement underrated là, dans cette division-là. Puis c'est un madman. C'est un madman qui est pas si bon que ça debout, mais le fait qu'il est juste super wild puis qu'il avance en swingant comme un fou, ça le rend dangereux. Puis il est dangereux parce qu'il y a le genre de Khabib effect. Que c'est un takedown artist, c'est un lutteur absolument incroyable. C'est pas, par exemple, un bon control fighter, contrairement à Khabib. Merab, c'est plus le genre de gars qui va takedown 13 fois dans le round, bien qu'il sera jamais vraiment capable de te garder en dessous de lui. Mais tu sais, tu passes quand même ton round à défendre des takedowns contre la cage, puis à te faire mettre la pression, puis à ne pas gagner, là, basically. Donc, ça va être très dur pour un gars comme Gustavo Lopez là, d'arriver sur short notice comme ça, puis de battre Merab Dvalishvili qui va littéralement le poursuivre en complet mongol, lancer des hooks pis des haymakers, puis drop down pour des takedowns là, littéralement à tout crise de moment de ce combat-là. Donc évidemment, j'ai Merab Dvalishvili par décision ici. Je pense que c'est un pick assez facile sur cette carte-là. Et ça nous mène à ce qu'on veut voir, à ce qu'on veut entendre. La raison pourquoi on va écouter cette carte-là. André Fili face à Charles Jourdain chez les 145 livres. C'est un énorme combat pour Charles. C'est un gros défi. Encore une fois, n'est pas favori dans ce combat-là. Mais je pense que c'est comme un peu la gimmick là, de Charles Jourdain de ne pas nécessairement être favori dans aucun combat. Surtout à l'UFC. Va toujours viser plus haut. Là, va toujours essayer d'aller chercher des gars qu'on a là. T'es sûr que c'est le bon move de te battre contre un tel? Moi, quand j'ai entendu ce match-up-là, par exemple, je dois vous avouer, j'étais bien content. C'est sûr que quand j'entendais parler des Charles ou d'autres qui disaient hey, Cron Gracie, Ryan Hall, ou même Sadiq Youssouf, des gars comme ça, j'étais genre, pas sûr, tu sais, Cron Gracie, oui, aucun moyen d'amener le combo au sol, mais c'est même le combo au sol, c'est un tabarnak de grappler, c'est un multiple champion du monde de Jiu et tout. Ryan Hall, le style le plus bizarre et frustrant dans tout l'UFC ou presque, puis Sadiq Youssouf, c'est un futur title challenger, voire même peut-être champion dans cette division-là. Donc, André Fili, meilleur scénario possible. Parce que oui, Charles se retrouve contre un meilleur lutteur que lui, encore. Probablement le cas dans beaucoup de combats dans l'UFC, là, mais l'affaire, c'est qu'André Fili, autant on l'a vu surprendre avec son grappling, tu sais, se retrouver dans des combos, il y a des gens, justement contre Sadiq Youssouf, que ça a été très serré, parce que Youssouf a essayé de le clincher contre la cage, a essayé de le take down, puis Fili s'est très très bien défendu là, là-dedans, puis il y a même eu des moments dans ce combat-là au niveau de son grappling, puis c'est ça qui a rendu le combat très serré. L'affaire, c'est que c'est pas vraiment dans lui que de grapple. C'est plus un gars qui va counter-grapple, qui va défendre le grappling de son adversaire. Puis oui, on l'a vu shooter pour des takedowns ici et là, mais c'est pas tant dans sa game, là, même pour un fighter de Team Alpha Male, c'est vraiment plus un range striker qui est très, très, très capable là, de se faire inciter dans un brawl. Puis c'est comme, je trouve qu'il y a un style qui joue très bien dans le style à Charles, considérant qu'il va pas arriver là avec un... Tu sais, si André Fillet arrive là, puis moi, aujourd'hui, je suis un lutteur, je suis genre Desmond Green, parce qu'on s'entend que... André Fillet est capable de jouer un game plan à la Desmond Green, genre jabber, rester à distance, toujours être sur son bicycle, puis s'il trouve que ses approches trop proches, ben essayer d'engendrer des échanges de grappling, soit dans le clinch contre la cage, soit juste de shooter des takedowns à open air comme ça. Mais, tu sais, je sais pas avec quel succès il va réussir ça. D'un Charles, on l'a vu contre Green, qui est un bon, gros, top control grappler quand il prend la chance, tu sais, de... Quand il réussit, c'est-à-dire son takedown, puis qu'il prend la chance de s'installer là, il est bon pour s'installer, il est bon pour rester là. Puis on a vu Charles tout de suite, soit lancer des soumissions de sa garde, puis utiliser ces soumissions-là pour se créer de l'espace, puis tout de suite faire son get-up, qui est très très bon. C'est quelqu'un que, autant il n'a peut-être pas la meilleure lutte au monde, c'est quelqu'un qu'on voit tellement, tellement habile pour se relever que ça fait que Charles est très 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 difficile à garder sur son dos. Ceci étant dit, André Fili a une lacune qui est assez grande, puis c'est sa défensive, debout. C'est un bon striker, il est capable de travailler derrière son jab, il est capable de faire des bonnes choses. Mais habituellement, si tu essaies de lancer beaucoup en direction d'André Fili, tu vas avoir tendance à l'ender beaucoup. C'est pas quelqu'un qui défend si bien que ça debout, c'est pas quelqu'un qui a des bons mécanismes de défense dans son striking. C'est un combattant vraiment plus offensif que défensif. Puis ça... Mais c'est la recette parfaite pour se faire counter par Charles, puis se faire dropper, puis se faire guillotiner. Comme il m'a dit qu'il allait le faire, puis comme je le sais qu'il va chercher. Puis je pense que c'est bon, parce qu'André Fili est vraiment tough. Tu sais, c'est déjà fait knocker, je pense, par un flying kick mongol de Yair Rodriguez. Mais sinon, on dirait que j'ai pas tant de souvenirs de l'avoir vu s'être allumé ben raide. Il y a peut-être une couple de TKO là, ici et là. Il y a quand même 7 défaites à sa fiche, mais tu sais... C'est pas un gars que j'ai le souvenir qu'André Fili, quand il perd, il se fait finir. C'est un gars qui a perdu plusieurs décisions. C'est un gars qui a perdu des split decisions. C'est un gars qui est très, très, très compétitif, là, même contre des combattants du top 15 dans cette division-là. Mais son manque de défensive, sa tendance à vouloir être très, très, très offensif puis pas trop se soucier de ce qui revient en retour... combiné avec le fait que, oui, je pense qu'il y a un avantage au niveau de la lutte. Je dis pas du grappling, mais bien de la lutte. Mais il n'est pas porté à l'utiliser vraiment, cet avantage-là. Donc, je pense qu'André Fili va peut-être avoir du succès debout, sûrement même. Ça va sûrement être un combat assez serré, back and forth, beaucoup d'action, jusqu'au moment où je vois Charles ben, le pincer comme... Tu sais, Charles, là, c'est un opportuniste. C'est 100% de sa game. C'est de trouver les petites opportunités, les petites chances qu'il a, puis il ne rate jamais, il voit, puis il en profite à tout coup. C'est un finisher né. Et puis, man, j'ai Charles Jourdain par soumission là, dans ce combat-là. Un genre de club and sub qui va lui faire mal debout, puis le finir par guillotine. Et puis, c'est ça le pic, Asti. C'est ça le pic. Puis, c'est même pas un pic que je me sens. Genre, tu sais, des fois, je vous le cacherai pas. Je suis comme, oh! Tu sais, comme contre Desmond Green. Genre, il me semble. J'ai confiance en Charles, je pense qu'il peut le faire, mais je trouve que les circonstances ne sont pas bien alignées pour qu'il gagne ce combat-là. Mais je réussis quand même à me convaincre. Non, regarde, il y a une option à la victoire, c'est ça. Puis là, je réussis à me convaincre moi-même qu'il y avait des bonnes chances de battre Desmond Green. J'ai pas eu à me convaincre dans ce combat-là. Je pense que c'est un match-up qui va très bien en fonction des choses que Charles Jourdain essaie de faire généralement quand il se bat. Man, c'est un bon match-up, je pense sincèrement qu'il va gagner. Je suis pas très inquiet pour lui, bien que c'est un huge match-up. Là. C'est un gars qui est très compétitif avec le top 15 mondial, comme j'ai dit. Donc si Charles arrive à perdre une décision dans ce combat-là, faut pas dire « Ah, c'est-tu le Jourdain, gros, c'est pas fort, ça! » Au contraire, le gars il affronte déjà les meilleurs à son troisième combat dans l'UFC. Mais je pense que c'est un des match-ups les plus favorables pour lui dans cette portion-là du ranking. Donc, pour cette raison-là, j'ai Charles, soumission, deuxième round. Ensuite, premier combat de la main card, c'est chez les 135 livres, bien que c'est 225. Jordan Espinoza, Mark De La Rosa, pas les gars en qui j'ai le plus confiance, moi vous dire, mais j'ai vraiment pas confiance en Jordan Espinoza. Son genre de style de bouger comme s'il était, je dirais, de m'en aller dire Dominic Cruz, mais je vais plus dire Tim Elliott, là. C'est sûr qu'il est meilleur debout que Tim Elliott. Il est surprenant au sol. C'est le genre de gars que tu le vois bouger, t'es genre, ah, ça c'est un striker, ça c'est un striker, mais somehow il a gagné la majorité de ses combats par soumission. Puis même quand on le voit gagner, c'est parce qu'il soumet des gens. Je pense pas qu'il y ait des meilleurs fundamentals que Mark De La Rosa, cependant. Qui est un gars qui paie beaucoup là, ces temps-ci, mais il a perdu contre des très bons combattants. Il a fait le 135, il s'est trouvé contre des gars vraiment plus gros que lui. Il revient à 125, il a des, comme des énormes défis devant lui à chaque fois. Fait que je veux moins mettre de stock dans la losing streak présente de Mark De La Rosa que je devrais en mettre, je crois. Puis je pense qu'il est assez fundamental pour battre Jordan Espinosa, qui est plus un gars de flash, un peu dans tous les aspects de sa game, va essayer de faire des flashy techniques debout, des flashy takedowns, des flashy submissions. Mark De La Rosa, c'est plus le gars qui il va garder une bonne garde défensive, va laisser aller ses mains, va lancer des kicks, mais genre plus c'est comme leg kick, pas un gars qui va essayer de spinner, trop lancer à la tête, ni rien, faire des affaires, t'sais, fucké. C'est plus un gars fundamental. Black Belt en Jiu-Jitsu se débrouille très bien au sol, je ne pense pas qu'il va se faire surprendre par Espinosa. Je vois même peut-être Espinosa essayer de le prendre dans une... Il y a tendance du clinch à lancer des darts, des anacondas, puis rouler dans ces soumissions-là. Je vois peut-être ça arriver, Mark De La Rosa défendre, prendre le top, puis genre tout simplement bien travailler jusqu'au dos, puis gagner par Rear Naked Choke. Donc j'ai Mark De La Rosa, soumission, deuxième round. Ça nous mène au prelim. Je vais aller vite, les boys, je vais aller très vite, parce qu'il y a crissement rien à voir là-dessus. Peut-être qu'il y a deux combats qui peuvent être intéressants, puis je dirais même peut-être 1.5 combats. C'est pas vraiment le cas de Maria Agapova contre Anna Seifert. Puis ça, c'est la prédiction la moins technique, l'analyse la moins technique que je vais vous présenter. On a une vraie 125 livres qui est quand même une 5-5, 5-6 avec une bonne reach dans cette division-là, qui affronte Anna Seifert, qui est littéralement la plus petite 115 livres dans l'UFC. La fille à mesure 5-1, à genre 60 pouces de reach. Ça va être une énorme différence de grosseur dans ce combat-là. Puis juste ça, ça fait que Agapova va avoir plus de power debout. Les deux préfèrent se battre debout. Là. Je vous dirais bien qu'Agapova, s'il est capable de s'installer sur le top et de ground and pound, elle a un très bon frame pour ça. Mais, tu sais, je vois Agapova être juste plus grosse et plus forte physiquement que Anna Seifert dans tous les aspects du combat. Parce qu'on a vu Seifert perdre souvent à cause qu'elle n'était pas assez, justement, grosse et forte pour la division des 115 livres. Puis là, move up sur short notice à 125 livres pour affronter Agapova. Donc j'ai Agapova par décision all the way. Je sais pas trop c'est quoi le processus là, de réflexion d'Anna Seifert. Peut-être qu'elle dit, je vais prendre des combats short notice tout le temps, je vais me mettre dans les bonnes grâces de l'UFC vu que j'ai dépanné pendant la pandémie. Mais et sur deux défaites consécutives, ça va probablement être sa troisième défaite consécutive. Ça va emmener sa fiche à genre 10 victoires et 6 défaites. Donc je pense que c'est une bonne manière de se faire couper de l'UFC, ça, de la part d'Anna Seifert. Bien qu'elle essaye sûrement rien que de se payer, parce que c'est définitivement une des combattantes qui doit pas faire une crise de scène puis qui doit être broke as fuck parce qu'elle gagne jamais. Ensuite, le seul combat intéressant sur les prelims, selon moi, Charles Rosa contre Kevin Aguilar. Puis je suis vraiment intéressé de voir ce qu'Aguilar va faire, comment il va rebondir dans ce combat-là, parce qu'il a perdu ses deux derniers combats. Il y en a un qui devait perdre, je vous le cacherai pas, contre Zubera Tukukov, cependant. J'ai vraiment été déçu de lui, là, la façon dont il s'est fait dominer sévèrement dans ce combat-là. Puis que je pensais que sa takedown defense était un peu meilleure que ça. Mais écoute, si le gars se fait takedown par Charles Rosa, je vais avoir 100% abandonné sa takedown defense. Ça va être le genre de combat bizarre où Aguilar, il faut le dire, c'est un genre de neutralisateur. C'est un genre de Desmond Green. C'est un gars qui, tu sais, rarement va aller de l'avant. Plus un gars qui se bat sur son basic, essaie d'outstriker son adversaire, mais tu tiens plus à être un bon combattant défensif qui ne se fait pas trop toucher. Puis il utilise ça pour juste toucher son adversaire assez, mais pas trop. Là. Pas trop, c'est pas un gars qui va y aller balls to the wall. C'est pas un gars qui va go crazy pour essayer de gagner le round. Il y a plus le genre de gars qui va essayer de shooter takedown à la fin du round là, pour sécuriser le round s'il y a de quoi. Mais je ferais pas ça contre Charles Rosa. Charles Rosa a littéralement probablement juste une chance de le battre au sol dans ce combat-là. Puis je pense pas qu'il y a la lutte pour l'amener au sol. Donc je vois Aguilar l'outstriker. Puis un mané Charles Rosa là, cette année, puis essayer de pull guard puis faire des affaires bizarres pour amener le combat au sol. Je pense pas qu'Aguilar va mordre. Donc j'ai Kevin Aguilar par décision. Là, les boys, on tombe dans des affaires que je peux même pas croire qu'on va écouter ça. 135 livres, Julia Avila, Gina Mazzani qui est de retour, Madame Temelia, testi, back dans l'UFC après une victoire à King of the Cage. Parce que ça fait crisser dehors parce que t'es pas assez bonne pour être dans l'UFC, mais là ils viennent la bring back. Fait qu'en tout cas, regarde, on verra ce que ça va donner, mais ça donnera rien de bon. Julia Avila est actuellement une bonne combattante complète qui a du potentiel dans cette division-là, puis que je serais vraiment pas surpris de voir dans le top 10, voire même dans le top 5 un moment donné, voire même peut-être challenger pour le titre, vu que pas mal n'importe qui peut challenger pour le titre dans cette division-là. Donc Avila par décision all the way, je pense un combat facile. Ensuite, chez les 125 livres, nous avons Tyson Nam qui affronte Zarouk Adachev, un combattant qui a perdu ses débuts pro pour ensuite gagner ses trois prochains combats à Bellator contre des adversaires qui avaient des fiches de genre 0-1, 0-2, 0-0. Donc dans le fond, le gars est 3-1, a jamais affronté personne qui existe, puis là arrive dans l'UFC sur super short notice pour battre Tyson Nam. C'est un malade mental, Adachev, par exemple. C'est un gars qui va mettre la pression puis qui va essayer de pousser le fight vers lui. Oui, va sûrement dread jouer dans le style de Tyson Nam qui préfère rester debout et être un counter-striker un peu plus collecté. Je pense que c'est la manière là, pour Tyson Nam de gagner un combat dans l'UFC. Chose que je n'étais pas si sûr qu'il allait arriver quand je l'ai vu rentrer dans l'UFC, mais là, s'il bat pas Zarouk Adachev, là, man, il a juste pas rapport aussi. Ensuite, Jordan Griffin, Derek Minner. C'est un combat, ça va arriver. Derek Minner, soit qu'il gagne par soumission au premier round ou qu'il perd. Jordan Griffin gagne pas souvent dans l'UFC, mais il semble quand même être tough et avoir des moves bizarres. Donc je pense que c'est Griffin qui va gagner par soumission dans ce combat-là. Évidemment au deuxième round, parce que Derek Minner va passer proche de le finir nécessairement au premier round. Et puis ça nous mène à Anthony Ivey contre Christina Aguilera, man. C'est Christian en fait, là. Christian Aguilera. Mais c'est un combat que j'ai l'impression qu'Aguilera devrait gagner. C'est deux grapplers. Il y en a un qui a beaucoup plus d'expérience que l'autre. C'est Aguilera. Mais moi, quand t'arrives dans l'UFC avec une fiche de 13-6, déjà là, je suis comme « Ah, ok, c'est pas la meilleure des fiches, mais je vais te laisser une chance. » Puis là, je vais voir ta fiche, puis je me rends compte que sur tes 6 défaites, t'en as 5 que c'est des first-round KO, des first-round TKO. Ben, je peux juste pas me fier sur toi dans l'UFC, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a l'avantage au niveau du style match-up parce qu'il y a plus d'expérience puis il est plus composé qu'un Anthony Ivey. Mais le fait qu'il s'est fait knocker 5 fois en 6 défaites avant même de rentrer dans l'UFC, ça me donne pas beaucoup de confiance. Donc, je vais aller avec Ivey par TKO au premier round ici. Surtout que la majorité de ses défaites, c'est des first round finish. Là, que, genre, il se fait littéralement pogner cold au début du combat puis il se fait finir genre de même, là, instantanément. Fait que non, j'ai Anthony Ivey TKO au premier round dans ce combat-là. Fait que ça complète mes analyses et prédictions de cette carte-là qui est définitivement une carte qui existait dans la vie puis qu'on va écouter uniquement pour voir Charles Jourdain en action. Donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, tout partout sur le territoire. Et puis on se parle une prochaine fois.